Alors, comme je fais de temps en temps, on va faire quelques semaines sur Ésaïe. On est déjà arrivé au tiers du livre, petit à petit. Et il y a vraiment de très belles choses dans ces chapitres. Et j'avoue même que, en les préparant, j'y découvre plein de choses dans la parole de Dieu, hein, parce que ce sont des siècles avant Jésus. Mais des choses qui préparent la venue de Jésus, et également des messages spirituels qui peuvent nous toucher. Alors, ce chapitre, pour moi, je l'ai lu, et la première chose qui m'est passée par la tête, c'est comme un film moderne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des petits bouts de dialogue, des petites prises de vue juxtaposées, des retours en arrière, tout n'est pas linéaire, des effets pour provoquer de l'émotion. Donc, ayant fait un film ces derniers mois, vous avez vu, je comprends un petit peu tout ça, ce que dans le temps, les premiers films qui sortaient, quand j'étais enfant, les films étaient toujours linéaires, toute l'histoire se déroulait dans l'ordre. Maintenant, on rentre au milieu d'une histoire, on sort, on voit le début, on voit la fin, on va dans tous les sens. Et il n'y a jamais, rarement des prises de vue qui durent longtemps, sauf que ce soit le choix du réalisateur. Et donc, ce texte est vraiment comme un film dans ce sens-là. Alors, je vais le lire. Je suis pas sûr que vous allez tout comprendre parce que, comme Marie me dit souvent, parfois les films modernes, on a du mal à suivre pourquoi tel ou tel truc est là. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais avant de lire, donc voilà, ça c'est les grandes lignes de ce chapitre. Les versets 1 à 10, une prophétie sur la prise de Babylone. Versets 11 et 12, prophétie contre Édom. Dans certaines versions, on dit Douma, bon, enfin, c'est Édom. Et puis, versets 13 et 17, une prophétie contre l'Arabie, ou par rapport à l'Arabie. Donc, je lis les chapitres. Message sur le désert maritime. Pareil à l'ouragan qui progresse dans le Négev, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. Le traître trahi, le dévastateur dévaste. À l'attaque, Elam, à l'assaut, Médie. Je mets fin à tous les gémissements. C'est pourquoi je suis rempli d'angoisse. Les douleurs s'emparent de moi, pareil aux douleurs d'une femme en train d'accoucher. Les spasmes m'empêchent d'écouter, le tremblement de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit qui me faisait tant plaisir est devenue pour moi une source d'anxiété. On dresse la table, on dispose des coussins, on mange, on boit. Debout, prince, graissez le bouclier. En effet, voici ce que m'a dit le Seigneur, va faire poster un guetteur, qu'il annonce ce qu'il verra. Il verra un char, un attelage, à deux chevaux, des cavaliers montés sur des ânes, d'autres sur des chameaux, qui soient attentifs, très attentifs. Le guetteur s'écria, pareil à un lion, le Seigneur, je me tiens sur mon poste de guet toute la journée, et je suis debout à ma tour de garde toutes les nuits. Et voici qu'arrive un char, un homme sur un attelage à deux chevaux. Prions que la parole dit, elle est tombée Babylone, et toutes les sculptures sacrées de ses dieux sont en pièces par terre. Mon peuple, toi que j'ai battu comme pour extraire du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel, le maître de l'univers, du Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Message sur Douma. On me crie de Séir, sentinelle, quelle nouvelle de la nuit, sentinelle, quelle nouvelle de la nuit. La sentinelle répond, le matin arrive, mais aussi la nuit. Si vous voulez poser des questions, posez-les. Convertissez-vous et venez. Message de l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les forêts de l'Arabie, caravane de dedans. Allez à la rencontre de l'assoiffé. Apporte-lui de l'eau, habitant du pays de Téma. Allez à la rencontre du fugitif avec du pain. Ce qui fuit devant les épées, devant l'épée dégainée, devant l'arc tendu, devant la férocité des combats. En effet, voici ce que m'a dit le Seigneur. Encore un an, compté aussi précisément que les années d'un travailleur salarié, et toute la gloire de Kéda aura disparu. Il ne restera qu'un petit nombre d'archers parmi les guerriers de Kédar. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui l'annonce. Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez tout compris dans ce chapitre lors de la première lecture. Parce qu'il y a plein de petites phrases, de petites scènes, de petites prises de vue différentes. On va en fait faire deux choses. D'abord, je vais passer un petit peu le texte en revue pour donner quelques explications. Et puis, dans une deuxième partie, essayer de voir les leçons que l'on peut apprendre dans tout ça. Donc la première partie est un petit peu plus technique, mais qui permet quand même de mieux comprendre les applications. Dès le début, le premier verset, message, le désert maritime. De quoi s'agit-il? D'abord, maritime, parce que là, ce sont des prophéties sur Babylone. Babylone, c'est là il y a les deux rivières, hein, le Tigre et l'Euphrate, une plaine alluviale avec beaucoup de marécages formés par ces rivières, leurs affluents, donc c'est maritime. Mais pourquoi un désert? Pas un désert dans le sens où il n'y a pas d'eau, parce que forcément, on parle d'un désert maritime, c'est une drôle d'expression. Mais désert pourquoi? Parce que le désert, dans Ésaïe, évoque le caractère radical du jugement. On l'a déjà vu, si vous étiez là, on ne se rappelle pas tout, mais par exemple, dans le chapitre 13, et les versets 20 à 22, en parlant de Babylone, elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée, l'arabe n'y dressera pas sa tente, les bergers n'y feront pas dormir le troupeau, ce sont les bêtes du désert qui iront leur tanière. Les hiboux envahiront ses maisons, les autruches s'y installeront, les boucs viendront à faire leur bond. Les hyènes hurleront dans les palais et des chiens sauvages dans ses résidences de luxe. Donc voilà, c'est un peu le désert. Le mot est là d'ailleurs. Et puis le chapitre 14 et les versets 22 et 23. « Je me dresserai contre eux, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je supprimerai mon nom et le reste de Babylone et leurs enfants et petits-enfants, déclare l'Éternel. Je ferai d'elle le domaine du hérisson et un marécage. Je balayerai à l'aide du balai de la destruction, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Bon, voilà. On parle de destruction. Ensuite, au verset 2, on parle de deux peuples. D'abord, les Élamites. Donc, comme je dis, on voit ce petit bout de film. À l'attaque, Élam. Donc, ça veut dire, Élam, c'est les Perses, en fait. À l'assaut, Médie. Donc, Médie. C'était aussi un peuple, les Mèdes, et ce sont les Mèdes et les Perses qui ont remplacé Babylone. C'était l'empire suivant. Donc après Babylone, c'était les Mèdes et les Perses. Et donc dans ce texte, c'est comme si Ésaïe les appelle à aller à l'attaque contre Babylone. Et il dit, et je mets fin à tous les gémissements. Mais de quoi s'agit-il? Enfin, ce sont les gémissants des peuples asservis par les Babyloniens. Parce que les Mèdes et les Perses avaient une politique différente. Les Babyloniens faisaient venir des personnes de tous les pays vaincus à Babylone pour servir d'esclaves, etc. Et c'est pour ça qu'un grand nombre des peuples d'Israël, grand nombre d'Israélites sont partis donc à Babylone. Mais les Mèdes et les Perses disaient non, non, ce qu'il faut, c'est que chacun rentre dans son pays, qui rétablit sa religion, et comme ça, tous les dieux vont être contents avec nous et on va pouvoir faire prolonger notre empire. Donc c'était une autre politique, si on veut. Et c'est pour cela d'ailleurs que 70 ans après la déportation, que le peuple d'Israël a pu repartir à Jérusalem. Bon, ces dictateurs, cet empire, si on veut, ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. Dieu avait permis cela. Bon, mais c'était quand même leur politique. Donc, les peuples qui gémissaient ne gémiront plus. Mais tout cela, pour le prophète, il dit, bah, c'est tellement étrange, tellement émouvant que c'est comme un accouchement, en fait. Donc, il y a les mêmes douleurs quelque part. Je ne peux pas insister là-dessus aujourd'hui. Verset 5. On dresse la table, on dispose des coussins, on mange, on boit. Debout, prince, graissez le bouclier. Alors, qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Bon, graisser le bouclier, c'était pour aller partir se battre. Mais en fait, pourquoi la table? Parce que le soir même où les Mèdes et les Perses se sont emparés de Babylone, il y a eu un grand festin. Et c'est Belshazzar, donc l'empereur, qui faisait un grand festin. Si vous voulez, vous pouvez lire tout le chapitre 5 de Daniel, vous aurez tout le récit. Et donc, et pendant ce moment-là, des paroles sont apparues au mur du palais, « Menez, menez, tekel upharsin », en araméen, qui veut dire, et puis Daniel est venu pour donner l'explication, « Comptez, comptez, pesez, divisez, les jours sont comptés ». C'est la fin de cet empire. Et c'était pendant cette nuit-là que les Mèdes et les Perses se sont emparés de la ville de Babylone pour mettre une nouvelle dynastie, un nouvel empire en place. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de dresser les tables, de disposer les coussins, de manger, de boire, enfin, c'est par rapport à ça. Hein, vous avez compris pourquoi je dis c'est comme un film, hein, avec des petits allusions et tout ça. Alors, un guetteur est là, donc le guetteur était, on suppose, à Jérusalem, qui attend, et voit un messager qui arrive. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Elle est tombée, Babylone. Donc on vient annoncer la fin de cet empire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si c'est la fin de l'épreuve des Judéens, il y a une raison pour ça. Parce que le verset 10 dit ceci. « Mon peuple, toi que j'ai battu comme pour extraire du grain dans mon air. » Ça veut dire quoi? Bon, quand on fait la récolte de céréales, il faut battre la céréale pour que les graines en sortent. Donc, si on se met à la place de la graine, on va dire, on fait du mal. En train de battre cette céréale. Mais c'est pour une raison. Et Dieu est en train de dire, ok Israël, je vous ai laissé partir 70 ans à Babylone, mais c'est pour une raison. C'est que vous compreniez à quel point vous étiez tombés dans l'idolâtrie et tout le reste. Et c'est vrai qu'après le retour de ce peuple d'Israël, après 70 ans de déportation, il n'était pas parfait. Jésus avait des paroles très sévères envers le peuple, mais on leur a plus jamais fait des reproches par rapport à l'idolâtrie, au moins. Ça, ils avaient compris par la déportation. C'était fini. Donc, c'était désagréable, mais il y avait une raison pour cela. Donc, ça, vite fait, c'est le contexte de ces premiers versets. J'aurais dû partir plus loin, j'ai oublié. Voilà. Je redis, les Élamites sont des Perses. L'Empire perse a succédé à l'Empire babylonien. Les gémissements des peuples soumis aux Babyloniens seront finis. La ville est tombée en une nuit. Le guetteur voit l'arrivée d'un messager qui annonce la prise de Babylone. La fin de l'épreuve des Judéens. Maintenant, petite prophétie sur Édom. On sait que c'est ça parce qu'on me crie de Séir. Et je pour vous donner la référence si ça vous intéresse, Genèse 32, verset 4, qui dit « Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Saïr, le territoire d'Édom. » Donc on sait qu'il s'agit d'Édom. Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? De nouveau, il y a un guetteur, un veilleur. Et il donne une réponse assez énigmatique. Elle dit « Qu'en est-il la nuit ?» Donc, c'est le milieu de la nuit, c'est la veille de nuit, et on dit au guetteur « On en est où ? Quelle heure est-il, en quelque sorte ?» Et il dit « Le matin vient. » C'est très bien. Mais aussi la nuit. Donc, le lendemain, il y aura de nouveau la nuit. Ça va revenir. Donc, le matin vient, mais il y aura la nuit aussi. Bon, c'est un peu équivoque comme réponse, mais on peut comprendre ceci, que le matin évoque la délivrance et la nuit l'oppresseur. Et s'il est vrai qu'il y aura une délivrance, on peut dire dans le contexte, hein, parce que tout n'est pas dans l'ordre chronologique, les Assyriens vont un petit peu relâcher la pression, mais ce ne sera pas fini, ça va revenir. Et la seule bonne réponse, bon, c'est se tourner vers le Seigneur. Hein? Si vous voulez poser des questions, posez-les, ok. Mais convertissez-vous et venez. Donc il est important de se poser des questions. Mais j'ai une petite réplique que je donne des fois quand quelqu'un dit « Je me pose des questions par rapport à la vie ». Et je dis toujours « Alors, si tu n'as pas la réponse, c'est pas, il ne faut pas se poser des questions, mais poser la question à quelqu'un qui a la réponse. » Parce que les gens disent souvent hein, « Je me pose des questions ». Bon, c'est ma façon d'amener les gens à aller un petit peu plus loin. Et la troisième prophétie sur l'Arabie, mais tout ça, Dedan, donc il parle là des caravans de Dedan, c'était une tribu arabe de marchands. Ces marchands avaient un problème, ils étaient attaqués, donc ils devaient se réfugier. On parle donc de... Oui, vous passerez la nuit dans les forêts de l'Arabie. Il fallait se cacher pour se mettre à l'abri des Assyriens. Et on demande à une autre tribu, Théma, de venir à la rencontre du fugitif avec des vivres, avec du pain et aussi à la rencontre de la soifée, donc d'apporter à manger et à boire. Parce qu'ils ont dû quitter leur route habituelle pour passer par la forêt où ces vivres leur manquaient cruellement. Mais ici, ce n'est pas un message très positif, parce qu'ils disent après que Kedar, donc c'est encore une tribu ismaélite, donc arabe si on veut, va disparaître. Donc attaqué par Nebuchadnezzar, si vous voulez une référence, Jérémie en parle au chapitre 49 de Jérémie, les versets 28 et 29. Sur Kedar et les royaumes de Hatsor, auxquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, infligea une défaite. Voici ce que dit l'Éternel, levez-vous, montez à Kedar et semez la dévastation chez les nomades de l'Est. En prendre leurs tentes et leurs troupeaux, on s'emparera de leurs abris en toile, de tous leurs bagages, de leurs chameaux, et on leur criera, la terreur règne de tous côtés. Donc, bon, c'est une référence à cela que, finalement, ils vont être vaincus par Nebuchadnezzar d'ici un an. Alors, on met tout ça ensemble, comme ce film, mais je me suis dit, je continue un petit peu avec la notion de film, et Parfois, dans ces films, il y a des petits bouts de phrases, des répliques cultes qu'on n'oublie pas. Donc, les répliques. Avec Marie, on est allé voir un film récemment où un homme politique dans le film parle de son adversaire et dit « C'est un agneau déguisé en agneau. » Une drôle d'expression, mais bon, normalement on dit un loup déguisé en agneau, mais on dit « C'est un agneau déguisé en agneau. » Bon, la petite phrase que l'on retient. Ou bien, vous connaissez la grande vadrouille. Il y a plein de phrases dont je me souviens, mais on a une qui m'a toujours fait rire. Donc Louis de Funès et Bourville. Et je crois que c'est Bourville qui dit « En tout cas, ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas. » Et Funès dit « Et moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. » Bon, ça c'est des petites phrases qu'on retient dans un film. Et dans ce texte, il y a trois petites phrases que l'on retient, où chaque fois c'est l'Éternel qui l'annonce. Au verset 10, par exemple, il dit c'est le maître de l'univers, du Dieu d'Israël, qui l'annonce. Et au verset 17, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui l'annonce. Alors, les trois phrases que j'ai retenues dans ce texte et qui peuvent être utiles pour nous, c'est d'abord, au verset 9, elle est tombée Babylone. Alors, j'espère que ça vous dit quelque chose, parce qu'on revient vers cette phrase dans un autre livre de la Bible. L'Apocalypse, dans l'Apocalypse. Exactement cette phrase-là, je peux vous le lire, c'est dans Apocalypse 14, verset 8. Il dit, elle est tombée. Pardon, non, un autre, un deuxième ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Et puis au chapitre 17 de l'Apocalypse, les versets 9 et 10, je crois que j'ai mal noté la référence. Bon, je trouve pas, mais ça arrive, même dans une présidence. Je pense qu'il a redit au chapitre 17, mais ce n'est pas grave. En tout cas, Babylone, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, c'était un empire que Dieu avait utilisé pour que le peuple d'Israël apprenne à lui obéir. Mais Babylone, dans le Nouveau Testament, on comprend bien que c'est un mot qui représente quelque chose, qui représente toute société humaine construite sans Dieu. Ce qui peut l'amener plus ou moins, selon les moments, à persécuter le peuple de Dieu. Parce que elle remet en question cette absurde prétention de croire en Dieu. Donc c'est toute société qui cherche à se construire sans référence à Dieu. Bon, ça peut être un État, ça peut être une société, ça peut être une association, ça peut être plein de choses. Mais la prétention, c'est de dire, on n'a pas besoin de Dieu. Mais tôt ou tard, Babylone va tomber. D'ici là, en ce qui concerne les autorités du pays où on habite, on reste soumis à toute autorité établie par Dieu, mais on refuse toute idéologie qui vient prétendre apporter la réponse la solution au malheur de l'humanité. Il n'y en a pas. Les autorités minimisent les conséquences du péché, heureusement. Les autorités sans Dieu, c'est mieux que l'anarchie. Mais en même temps, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas Babylone, c'est la royaume de Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle dans ce sens que un jour, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Nous serons dans le royaume de Dieu. Pas dans Babylone. Ce serait parfait. On a du mal, on a du mal à imaginer cette perfection. Parce qu'on est dans un monde où rien n'est parfait. Mais imaginez une vie de famille parfaite. Une relation parfaite. Un travail où tout se passe à la perfection. Ou quand on veut traverser la route, toutes les voitures s'arrêtent et on passe. Et même les vélos. Et les motards ne roulent pas sur le trottoir. Et il n'y a pas... tout est propre. C'est une petite parenthèse, quand on était en Lituanie, on a fait deux petites réunions dans un collège. Et on a posé des questions, c'était le groupe de 16-18 ans. Il y en a un qui a dit « Ah, j'ai été à Paris ». On a dit « Mais comment c'était ?» Il a dit « Mais c'était sale, il y avait des papiers partout. » Voilà comment il a... Mais nous connaîtrons cette éternité de perfection parce que Babylone va tomber. Voilà, on retient ça. Deuxième réplique culte. Le matin arrive, mais aussi la nuit. Si vous voulez poser des questions, posez-les, mais convertissez-vous. On encourage, je pense, les personnes à poser des questions. J'aime pas trop, comme j'ai dit, se poser des questions, mais à poser des questions, à chercher des réponses. Il faut l'encourager. Moi, je pense, on a parlé de la mort tout à l'heure. La chose la plus logique au monde, c'est que tous nos concitoyens se disent « Je ne suis sur la terre que pendant quelques années. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Je vais acheter la Bible, je vais acheter le Coran, je vais acheter les livres bouddhistes, je vais chercher pour savoir s'il y a quelque chose. » Ce serait logique. Ce qui est illogique, c'est ce qu'on fait, c'est de ne pas chercher du tout. Donc on encourage les gens à se poser et à poser des questions. Là, si vous voulez poser des questions, posez-les. Mais à la fin de tout ça, il faut que les gens vivent une véritable conversion à Dieu. À la fin. On a entendu deux témoignages ce matin de cela. Mais se tourner vers Dieu pour saisir le salut en Jésus-Christ, c'est ça le but des questions. Alors qu'on a souvent l'impression, surtout parmi les artistes, qui vont dire « Il est plus important de poser des questions que de trouver des réponses. » Peut-être c'est pas tout à fait la même chose, mais la fameuse phrase, je pense, de Charles de Gaulle quand il est président. Il a dit « Chez nous, on a beaucoup de chercheurs, on voudrait bien qu'ils trouvent quelque chose. » Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais que les gens cherchent et qu'ils trouvent Dieu. C'est ça que l'on veut, qu'ils se convertissent. Et peut-être, je me pose la question, si je le dis aussi clairement aux gens qui s'entourent de moi, qu'il faut cette conversion à Dieu. Donc voilà, encore quelque chose qui peut nous... on peut retenir. Le matin arrive, mais aussi la nuit. Le matin est là. Et il y a des textes bibliques, hein, comme Jésus dit, tant qu'il fait jour, c'est le moment qu'on peut encore le trouver. Mais il ne fera pas toujours jour. La nuit viendra. Donc le jugement viendra. Et la troisième réponse, c'est encore un an, compter aussi précisément qu'un travailleur salarié et toute la gloire de Kedar aura disparu. Compter aussi précisément qu'un travailleur salarié. Je pense que quand on reçoit la fiche de paie, on voit, ah, ils m'ont dit que j'ai fait 34 heures. Non, j'en ai fait bien mes 35. Et j'avais mes heures sup qui n'ont pas compté. Donc, on regarde. Le travailleur salarié, il voit bien. Il veut savoir. Donc, c'est aussi précisément qu'un travailleur salarié. Ça nous intéresse. Mais Dieu dit aussi précisément, l'histoire se déroulera selon son plan. Et la gloire de Kéda aura disparu. On ne sait pas pourquoi il voulait cela, mais on sait que pour Dieu, un jour, c'est comme mille ans, c'est comme un jour, hein, donc c'est dans 2 Pierre qu'il dit ça, et il n'intervient pas tout de suite en attendant que le plus grand nombre puisse se convertir. Donc, tout ça, ça fait partie de la vie, mais Dieu est souverain, et tout arrivera selon son plan. Et quelque part, que ce soit au niveau international, au niveau personnel, cela est important. Parce que Dieu a son plan. Et tant que je m'inquiète, je me fais des soucis, Jésus a dit lui-même, s'inquiéter ne permet pas d'ajouter une coudée à la durée de sa vie. Ça ne change rien du tout. On peut agir, mais s'inquiéter ne change rien. Parce que Dieu a son plan pour notre vie, pour notre Église, pour toutes les Églises, pour son peuple, pour les nations, pour l'histoire du monde. Tout se passera aussi précisément que un travailleur salarié, c'est précis. Je pense que cela fait 2 fois dans ces textes qu'on parle de guetteur, de sentinelle, et on peut dans ce sens jouer ce rôle pour notre entourage aussi, d'être le guetteur, de chercher ce que le Seigneur est en train de faire et de le vivre, et de le dire autour de nous que Dieu va faire aboutir son plan, qui a commencé de façon presque cachée, avec un petit bébé qui naît dans une étable, un homme qui grandit dans une région qui n'était pas réputée pour être la région la plus... C'est pas la région où il fallait naître. Il fallait naître à Jérusalem. C'est là où ça se passait. Une croix. Une mort sur une croix. Puis une résurrection. Et puis, 11 disciples. Puis aujourd'hui, des millions et des millions de personnes qui appartiennent au Seigneur. Dieu est en train de faire accomplir son plan. Et je termine avec une histoire que j'ai peut-être déjà racontée, mais qui m'a frappé parce que les paroles sont sorties de ma bouche presque sans que je réfléchisse. Quand je faisais un stand biblique au Blanc-Mesnil, quand j'étais pasteur là-bas, une fois un vieux syndicaliste est venu à la retraite et il me dit, voilà, j'étais très militant, mais ça n'a rien changé dans la vie. Aujourd'hui, rien n'a changé par rapport à avant, donc voilà, j'ai milité en vain. Puis il dit, mais vous, c'est pire, hein, parce que ça fait 2000 ans et rien ne change. Qui m'a dit. Je dis, non, c'est pas ça. Peut-être que le monde en tant que tel ne change pas, mais des millions de personnes maintenant ont la vie éternelle. Et Dieu est en train de faire aboutir son plan pour une nouvelle terre, de nouveaux cieux où la justice habitera. Donc Dieu est en train de faire aboutir son plan. Voilà.